Bien, chers amis, nous allons ouvrir la parole de Dieu, encore en ce jour. C'est un texte que j'ai pris, que l'on lit souvent en période de Noël. C'est pas Noël, quoique, avec la météo que nous avons, parfois on a l'impression qu'on va bientôt faire le réveillon. Mais bon, il y a des textes qu'on lit souvent à des périodes précises, mais on peut le lire aussi pendant l'année, car il y a beaucoup de choses à retirer de la parole de Dieu. La première lecture, nous la ferons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1er, Matthieu chapitre 1er, à partir du verset 18. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, est un homme bon et droit, et il ne voulait pas la livrer au déshonneur, c'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit-Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus, c'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu est avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. On parle beaucoup de Joseph, le père nourricier de Jésus au sein de la religion catholique, pour ne pas la nommer. Et en fait, la Bible fait très peu mention de lui, comme de Marie également. N'en déplaise à la tradition, mais ces deux personnages à qui on donne une grande importance dans la religion catholique, dans la religion orthodoxe, dans la Bible, on leur donne très peu d'importance, quoique ils ont une grande importance, ils sont des éléments centraux dans la vie de Jésus. Mais on en parle très peu dans la parole de Dieu. Et dans nos pays, il y a bon nombre d'institutions, d'écoles, d'hôpitaux portant fièrement le nom de Saint-Joseph. Moi-même, j'ai entendu parler de Saint-Joseph pendant toute la carrière de mon épouse, parce qu'elle a travaillé avec sa sœur dans une institution, une maison de repos qui s'appelait Saint-Joseph. Et on parlait toujours de Saint-Joseph à la maison quand ils parlaient de leur boulot. Et comme par hasard, j'habite dans une rue en face d'une école qui porte fièrement le nom de Saint-Joseph. Donc ça me poursuit vraiment encore maintenant, ce nom-là. Par contre, la Bible est très discrète à l'encontre de Joseph. On parle de lui avant la naissance de Jésus. Ensuite, il nous est raconté quelques récits où on parle de Joseph dans la petite enfance de Jésus. Puis quand Jésus a 12 ans, sans vraiment le nommer, mais on parle de son père. Et on dira plus tard que Jésus est le fils du charpentier, car Joseph était charpentier, donc il était connu en tant que charpentier. Et il est fort probable que Joseph soit décédé avant que ne commence le ministère de Jésus, parce que Jésus, sur la croix, il regarde sa mère Marie et il le dit au disciple Jean, « Voici ta mère ». Donc il est fort probable que Marie était veuve, et que Joseph était décédé prématurément, on ne sait pas, on ne parle pas de lui. Mais voilà, toujours est-il qu'on parle très peu de Joseph dans la parole de Dieu. Et quand la Bible parle de Joseph, elle déclare que c'était un homme bon et droit. Si Dieu a choisi Marie afin de porter en son sein Jésus, le Sauveur, le Messie, Dieu savait très bien que Marie était fiancée à un nommé Joseph, avec les conséquences que cette grossesse allait impliquer pour cette pauvre femme. Oui, disons ça, parce qu'à l'époque, ce n'était pas bien vu. Et non seulement pour cette femme, mais pour le couple, les conséquences que ça allait porter. Et la parole de Dieu nous dit que Joseph était un homme bon, mais pas bonbon. Quoique maintenant, les hommes sont plutôt bonbons, efféminés, et tout ce que on pourrait dire. Voilà, mais là, c'était des vrais mâles, comme on dit, des machos presque, surtout dans ces pays-là. C'était des vrais hommes. Il avait le sens des responsabilités, nous le voyons. Il connaissait bien les Écritures, il savait quel était le sort réservé à une femme qui tomberait enceinte sans être mariée, et encore plus si cette femme a été infidèle, si elle n'était pas avec son fiancé. Donc, voyez-vous, c'était assez compliqué la situation de ce jeune couple. Et il nous a aussi mentionné que cet homme, Joseph, est un homme droit, malgré tout. Et il ne veut pas salir quand même l'honneur de Marie. Donc, il a quand même beaucoup de respect pour cette femme. Pour lui, elle l'a fauté, mais cela ne sert à rien de le crier sur la place publique. On va essayer de s'arranger tout cela en amiable pour ne pas compromettre l'avenir de Marie. Et je crois que nous comprenons mieux pourquoi Dieu a choisi Marie en tant que mère de Jésus pour porter cet enfant. Mais nous comprenons bien aussi pourquoi Dieu a choisi Joseph. Parce qu'il a choisi Marie, bien sûr, mais il a aussi choisi Joseph, le mari de Marie, le fiancé à l'époque, et de les associer tous les deux dans le plan de Dieu. Ce sont deux personnes, et nous pouvons le lire entre les lignes, ce sont deux personnes qui craignaient Dieu. Dieu n'a pas choisi au hasard un couple. Il a choisi un couple parce qu'il avait confiance en ce couple-là et il savait que c'était un couple qui craignait Dieu. Et Joseph, quand il a appris cette nouvelle, il n'est pas allé trouver tout de suite Marie comme une furie, comme on pourrait le faire, comme beaucoup d'hommes auraient fait, en étant furieux. Non, il est vindicatif, en disant « Tu m'as trompé, je n'oserais pas qualifier tous les noms d'oiseaux que l'on pourrait dire à l'encontre d'une femme qui a trompé un homme. » Et donc, il a pris son temps avant d'annoncer sa décision, car il voulait malgré tout rompre ses fiançailles. En homme juste et bon, il réfléchissait à la manière d'annoncer cette rupture à son fiancé Marie. Ne nous précipitons pas, frères et sœurs, parce que c'est aussi un enseignement pour nous, cela. Ne nous précipitons pas de parler à notre entourage, à nos épouses, à nos enfants, ou à nos frères et sœurs, ou à nos voisinages, quand il y a des choses très importantes que nous voulons dire, ou parce que nous avons un désaccord avec telle ou telle personne, comme Joseph pouvait avoir. Ne nous précipitons pas. Laissons retomber la colère. Et prenons le temps peut-être de demander à Dieu de savoir comment pouvoir annoncer certaines choses ou pouvoir dire certaines choses. Des choses importantes qui peuvent mettre en jeu notre avenir ou influencer la vie d'autrui par notre façon de réagir ou de parler. Prenons le temps de réfléchir, de prier, d'être à l'écoute de la voix de Dieu. Toujours est-il que Joseph, il est bien décidé à rompre avec Marie. Et Dieu doit lui parler par révélation. Dieu se révèle à Joseph par un songe. Et là, je dis, Joseph était sûrement quelqu'un qui vivait dans l'intimité de Dieu. Je le crois profondément. Autrement, il n'aurait pas été choisi, bien sûr, pour élever cet enfant, qui est le Fils de Dieu. Nous ne voyons aucun étonnement de la part de Joseph quand il reçoit cette révélation. Il trouve tout à fait normal que Dieu lui parle, en tant que croyant, en tant que pratiquant sûrement. Et Joseph ne se pose aucune question, il est convaincu à ce moment-là de la divinité de la grossesse de Marie. Dieu se révèle à lui, il est convaincu de ce que Marie porte vraiment le Fils de Dieu. Et sans hésitation aucune, les plans de Joseph sont complètement changés, il n'est plus question de rompre avec sa fiancée Marie. Non, que fait-il? Il l'épouse directement. Quel courage! Mais quelle intimité il avait avec Dieu pour pouvoir accepter une chose pareille. Si ça nous arriverait, je ne sais pas, car ça ne pourrait plus arriver maintenant, ce genre de choses, mais je crois qu'il faut quand même une certaine intimité avec Dieu pour accepter, malgré tout, que ce songe n'est pas un effet de son imagination, qu'il a un peu forcé sur la dive bouteille le jour avant et qu'il s'est endormi dans un état second. Non, non, Joseph a vraiment compris que Dieu se révélait à lui. Et sans hésitation, comme je l'ai dit, il a épousé Marie, mais il la respecte dans sa virginité jusqu'à son accouchement. À l'époque, être vierge, c'était quelque chose de merveilleux, maintenant c'est une tare pour nos jeunes filles, mais à l'époque, c'était quelque chose de merveilleux de pouvoir afficher sa virginité à son mari. Quel homme remarquable dans le respect vis-à-vis de son épouse. Quel exemple pour nous, Marie, faut reconnaître, pour nous, Marie. En cette période où l'on parle beaucoup de violence vis-à-vis des femmes, combien de femmes meurent chaque jour sous les coups de leur mari? Tous les jours, il y a au moins une femme de par le monde qui meurt sous les coups de son mari. Combien de féminicides vivons-nous dans nos pays? Et là, nous voyons un profond respect pour sa fiancée. Donc, nous voyons que cet homme était vraiment un homme conduit par Dieu. C'est pour cela que Dieu l'a choisi, bien entendu. Et la vie continue en entendant l'heureux événement. Nous savons tous les difficultés que les deux parents ont eues pour trouver un lieu convenable pour pouvoir faire accoucher Marie. Ce n'était pas les élections, mais presque, parce que c'était le recensement et il y avait beaucoup de gens qui étaient en chemin pour pouvoir se faire inscrire. Et Joseph et Marie, nous savons tous qu'ils ont eu toutes les difficultés du monde pour trouver une place. Et je crois que Joseph, dans ces moments-là, était un précieux soutien pour son épouse dans les temps difficiles qu'il traversait. Une deuxième lecture pour aller plus loin. Toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2e. Chapitre 2, à partir du verset 1er. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux, depuis combien de temps l'étoile brillait, puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant, quand vous l'aurez trouvé, faites-le savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Verset 13. Après le départ des mages, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. » Joseph se leva donc et partit dans la nuit, emmenant l'enfant et sa mère pour se réfugier en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète, « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Le petit enfant, Jésus, est né. Quelle joie pour les parents! Quelle joie dans le ciel! Les anges sont en joie de ce que cette naissance du Messie est arrivée enfin, après tant de promesses, tant de paroles qui ont été prononcées par les prophètes en disant qu'un sauveur viendrait. Les anges sont en fête, les bergers sont en fête, et ils sont très heureux d'aller voir l'accomplissement des promesses. C'est la fête, le sauveur est né, le Messie est sur la terre. Et pourtant, nous savons tous que la naissance de Jésus ne fait pas que des heureux. Si les bergers et les mages sont dans la joie et se réjouissent dans la naissance du Sauveur, si le vieux Siméon se réjouit dans l'accomplissement des prophéties quand on va présenter Jésus au temple, si Anne, la prophétesse, est heureuse dans sa vieillesse de voir l'accomplissement des promesses de Dieu, de voir cet enfant qu'elle attendait, et avec cela, la délivrance d'Israël, il n'en est pas de même pour notre ennemi Satan. Ah non, ça lui, il n'est pas en fête, l'enfer n'est pas en fête, que du contraire. Satan savait depuis la chute que Dieu avait promis qu'il enverrait un sauveur afin d'apporter la rédemption à l'humanité. Et Satan se sert du roi Hérode pour détruire le plan de salut de Dieu. Hérode est rusé. Il appelle les mages, vous connaissez tous l'histoire. Il veut connaître l'endroit où est né l'enfant, afin que lui-même ait adoré l'enfant roi. Il veut, soi-disant, adorer ce nouveau-né, mais tel n'est pas son projet, vous le savez bien. Il veut tuer cet enfant par peur de perdre son trône. Au verset 12, Dieu avertit les mages par un songe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve, donc aux mages, ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Encore un rêve, encore Dieu se révèle là par un rêve, par un songe. Mais cette fois, il se révèle à des païens. Dieu a utilisé des païens. Ça prouve aussi, là-dedans, le plan de rédemption de Dieu, non pas seulement pour son peuple d'Israël, mais pour toute l'humanité. Il veut, dans ce moment-là, associer toute l'humanité dans le plan de salut de Dieu. Il leur enjoint donc de ne pas retourner vers le roi Hérode, mais de retourner par un autre chemin. Dieu parle à ses enfants, nous, par n'importe quel moyen. Il utilisera tous les moyens qui sont en sa possession pour nous parler. À nous d'écouter, à nous d'obéir les avertissements que Dieu nous donne quand il nous parle, quand il nous enseigne. Et les mages prennent au sérieux cet avertissement, ils retourneront par un autre chemin pour rentrer chez eux. Ce qui ne plaît évidemment pas au roi Hérode. On s'est moqué de lui et sa colère sera terrible, elle sera disproportionnée. Et il décidera d'assassiner tous les petits garçons qui sont nés à l'époque où Jésus est né. Non, rien n'a changé non plus dans ce monde. Nos dirigeants n'ont rien inventé. Hitler, Poutine et tous les autres, pour ne pas les citer, n'ont rien inventé dans leur colère et dans leur action de vengeance, bien souvent disproportionnée par les faits qui ont été accomplis. Dieu se révélera alors à nouveau à Joseph par un songe, le confirmant quelque part dans son rôle de père adoptif. Car Joseph avait une autorité de père sur Jésus, et Jésus lui rend bien parce qu'il nous est dit que Jésus était soumis à ses parents, il leur obéissait. Quel exemple aussi pour notre jeunesse de voir comment Jésus a été avec ses parents. Et il ordonne donc à Joseph de fuir en Égypte, car le petit enfant est en danger de mort, Hérode bien entendu voulant le tuer. Nous savons qu'à l'époque, bien sûr, les médias n'étaient pas aussi développés qu'actuellement. Donc, personne n'a pu, avec un coup de fil, avertir Joseph en disant « Fais gaffe, va bien loin, parce que Hérode veut assassiner Jésus ». Non, Dieu a utilisé cette méthode, qui est le songe, pour pouvoir ainsi parler à Joseph. Joseph ne pense pas être victime de son imagination. Il prend au sérieux les avertissements que Dieu lui donne. Dieu, frères et sœurs, peut nous parler encore aujourd'hui par révélation, et je le crois. Bien sûr, il faut être prudent. J'ai vécu des choses qui sont parfois douteuses et qu'il faut faire très attention, mais je crois que Dieu peut encore aujourd'hui se révéler par ce moyen. Donc soyons attentifs à la voix de Dieu. Ne prenons pas à la légère ce genre de révélation. Ça, c'est annoncé dans la parole de Dieu. Si nous voyons le livre de Joël, Dieu dit que dans les derniers temps, il parlerait par des songes, par des révélations. Donc si un jour, comme je dis, si vous n'avez pas abusé de la dive bouteille, mais si un jour vous avez un songe et que Dieu vous parle, nous devons aussi prendre au sérieux si les révélations qui vous sont données correspondent avec la parole de Dieu, bien entendu. C'est cela que je dis. Il faut être prudent quand des choses comme cela arrivent. Parce qu'il y a trop de dérives. Et j'ai vécu ça, des dérives. Je ne vous raconterai pas quoi, mais enfin, parfois, je me suis posé par après des questions, ce que j'ai entendu. Est-ce que c'est vraiment dirigé par la parole de Dieu? Mais je crois à la révélation de la parole de Dieu par ce moyen. Et de toute façon, quand Dieu parle vraiment, il n'y a pas photo. Hein. On sait bien que c'est sa parole qui a été prononcée. Et Joseph entre dans le plan de Dieu pour la venue du Messie dans le monde, car il sauve Jésus d'une mort certaine, parce que Jésus était en danger de mort. Et s'il n'avait pas obéi à la voix de Dieu, l'enfant aurait été condamné. Car le plan d'Hérode, c'était de tuer cet enfant. Donc soyons attentifs, frères et sœurs, quand Dieu se révèle à nous, par n'importe quel moyen, notre obéissance peut parfois aussi sauver des vies. Faisons attention quand Dieu nous parle, quand Dieu nous demande de dire certaines choses, de prendre ces choses-là à la lettre et de faire ce que Dieu nous dit. Et nous voyons aussi, entre Jésus et le peuple d'Israël, un parallélisme. Nous avons une certaine similitude aussi. Quand le peuple d'Israël naissant était dans la famine, où Dieu envoie-t-il son peuple? Comme Jésus, en Égypte. Il l'envoie en Égypte. Dieu fait monter son peuple en Égypte. Dieu fait monter son fils en Égypte. Et il y aura un retour pour les deux. Voyez-vous comment la parole de Dieu se concorde bien. Matthieu chapitre 2, verset 19. Matthieu 2, 19. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retourne avec eux dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. » La vie continue en Égypte. Pour la famille de Jésus, Joseph avait sûrement trouvé du travail, peut-être comme charpentier, afin de nourrir sa petite famille. Mais le plan de Dieu n'était pas qu'il s'installe en Égypte, non. Cela devait durer simplement un temps, comme pour Israël. Dieu permet une échappatoire aussi pour nous parfois. Dieu veut nous protéger, il nous guide en Égypte peut-être. Je parle de ça sur le plan spirituel. Il veut nous épargner certaines difficultés, mais il ne veut pas qu'on s'installe dans une semi-retraite. Il y avait un plan pour Dieu et pour la famille de Jésus. Il y avait un plan pour Jésus, pardon, et pour sa famille. Il permet que nous demeurions en Égypte, nous aussi, mais nous n'avons pas nous y installer et être ensuite hors du plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que Jésus soit en Israël pour annoncer le salut à son peuple. Et Dieu se révèle encore une fois à Joseph par un songe. Comme je vous le disais au début de cet exposé, il est peu parlé de Joseph dans la Bible, mais le peu que nous savons de lui nous démontre un homme proche de Dieu, avec une sensibilité spirituelle très profonde. Ainsi Dieu peut lui parler et l'utiliser. Quel exemple pour nous. Je me suis dit, sommes-nous vraiment proches de Dieu comme nous le prétendons? Peut-il nous parler comme il a parlé à Joseph? Peut-il nous utiliser comme il l'a utilisé Joseph? Et l'écoutons-nous quand il nous parle? Parce qu'on dit souvent, Seigneur, parle-nous. Mais il dit, je t'ai parlé. Déjà, tu as ma parole. Tu vas aux réunions. Je me révèle par les prédications, par les présidences, par une parole de sagesse que quelqu'un peut apporter. Sommes-nous prêts à l'écouter? Sommes-nous prêts à vivre dans une communion intense avec lui? Joseph, mon ami, la parenthèse égyptienne est terminée. Il faut rentrer au pays. C'est là-bas que la mission de Jésus doit s'accomplir. Continuons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, et au verset 21. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et retourna dans le pays d'Israël. Mais il apprit qu'Archélaüs était devenu roi de Judée à la place de son père Hérode. Il eut donc peur de s'y installer, et averti par Dieu par un rêve, il se retira dans la province de Galilée, où il s'établit dans une ville appelée Nazareth. Ainsi se réalisa cette parole des prophètes, on l'appellera le Nazaréen. Une fois de plus, Joseph obéit à la voix de Dieu. Il ne résiste pas. Il va quelque part vers l'inconnu. Il ne sait pas ce qu'il attend au pays d'Israël. Il quitte l'Égypte, mais quelque part, il a la boule au ventre, hein, parce qu'il sait bien que là-bas, ce n'est pas sûr pour sa famille. On voulait la mort de l'enfant auparavant. Bien sûr, le roi Hérode est mort, mais son fils règne à sa place. Ça reste dans la famille du roi Hérode. Peut-être qu'il y a des espions qui sont infiltrés, qui pourraient avertir le roi de ce qui s'est passé et en représailles leur faire du tort. Et Dieu connaît les craintes de Joseph. Il agit en bon père de famille, il veut que protéger sa famille. Et une nouvelle fois, Dieu intervient auprès de Joseph par un songe. Il en a l'habitude, Joseph. Et Dieu change le plan de Joseph. Nous irons à Nazareth, où il s'installera avec sa famille, et où il aura cette activité de charpentier. Oui, dans notre vie, frères et sœurs, nous pouvons avoir peur, des craintes. Et il n'y a pas de honte à avoir peur. Il n'y a pas de honte à avoir des craintes. Il ne faut surtout pas paniquer, parce que nous avons un grand Dieu. Et si nous sommes attentifs, il est là pour apaiser nos craintes. Il est là pour nous apaiser, il est là pour nous parler, il est là pour nous conseiller. Alors ce matin, si dans une décision que nous devons prendre, ou dans certaines choses importantes dans notre vie, et que nous sommes dans la crainte, tout comme Joseph, portons nos regards vers Dieu le Père, vers notre Père Céleste, qui comme pour Joseph, saura nous guider et nous conduire. La peur est légitime, frères et sœurs, parce que nous restons humain, mais ne restons pas avec elle. Ne restons pas dans la peur. Laissons-nous conduire par Dieu. Oui, remarquons la sensibilité spirituelle de Joseph. Tout au long de l'enfance de Jésus, il a été très sensible à la voix de Dieu. Car de Joseph, on ne parle de lui que jusqu'à l'adolescence de Jésus. Réalisons que grâce à Joseph, par son obéissance et sa soumission à Dieu, il a évité de graves ennuis à Jésus et à sa famille. Il est entré volontairement dans le plan de Dieu. Ça est tombé comme ça, mais il a accepté d'être dans le plan de Dieu. Malgré les embûches qu'il a dû vivre, mais il est entré. Et Joseph a cru à la parole de Dieu qu'initialement lui a été adressée, et il s'est laissé conduire par Dieu tout au long de sa vie. Alors, sommes-nous prêts, frères et sœurs, à entrer dans le plan de Dieu, tout comme Joseph, sans savoir où nous allons aller, un peu comme Abraham quand il a été appelé, « Lève-toi et démarre !» Sommes-nous prêts à entrer dans le plan de Dieu? Sommes-nous prêts aussi à savoir nous effacer? Vous savez, on a tellement mis en évidence Joseph, dans la religion, alors que cette personne, tout comme sa femme Marie, sont restées très humbles à leur place. Nous qui les avons un peu mis sur un piédestal. Mais eux, ils sont restés dans une simplicité totale. Ils sont restés dans le plan de Dieu. Savons-nous pouvoir nous effacer? Parce qu'il n'est plus parlé de lui dans l'Écriture. Sa mission a été terminée. Il n'a rien fait pour se mettre en avant, disant, moi, je suis le Père du Fils de Dieu. Donc son CV, il pouvait le mettre. Il ne l'a jamais fait. Il est resté tout à fait humble. Sa mission est terminée. Il n'a rien fait pour se mettre en avant. Sachons, frères et sœurs, demeurer à la place que Dieu veut que nous occupions. Et si on part prendre la place de quelqu'un d'autre, de faire quelque chose à la place d'un autre, non. Faisons ce que Dieu nous demande de faire et nous serons bénis. Joseph a fait confiance à Dieu pour tout. Voilà la vie chrétienne que Dieu nous propose. Faire confiance à Dieu, être à son écoute, être là où Dieu veut que nous soyons. Et puis quand il n'a plus de boulot pour nous, eh bien ne pas essayer de forcer les portes et de dire « moi je veux ». Non, toi tu dois rester à la place que j'ai définie pour toi, dit le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse ce matin, nous guide et nous montre vraiment où nous devons être et ce que nous devons faire. Amen. Seigneur notre Dieu, aide-nous à être tout comme Joseph. Être à l'écoute de ta voix, faire ce que tu nous demandes de faire, rester à notre place et vraiment comprendre ton plan. Seigneur, parle à ton Église, parle à chacun d'entre nous que nous puissions vraiment demeurer ferme dans la foi et te faire confiance pour toutes choses. Amen.